Tristan Bernard, l'appétit vient en mangeant. Histoire cannibale. Mais naturel de l'Oulancy, vaste territoire qui s'étend entre le lac Rodolphe et le lac Vittoria Nyanza, sont parmi les anthropophages de l'Afrique centrale ceux qui sont le mieux à concilier l'habitude de cannibalisme avec les raffinements de notre civilisation. Une délégation de Luansi, à la suite d'un séjour de quelques semaines au jardin d'acclimatation, a rapporté au pays natal dans ses récentes coutumes européennes. C'est ainsi que la royauté dans Luansi se tire au sort à la façon de la galette des rois, traditionnelle d'Épiphanie. Cette galette traditionnelle est remplacée par une jeune femme enceinte de 3 mois qu'on accommode au Salmi. L'heureux gagnant est proclamé roi pour une année. C'est lui qui, au terme de la Constitution, est chargé, 3 mois avant l'expiration de son mandat, de préparer la jeune femme pour le jour des rois prochain. On en prépare chaque année 3 ou 4 pour plus de sécurité. Cet extrait du Moniteur des explorations et découvertes m'avait toujours vivement intéressé. À cette époque, mon âme jeune, éprise d'inconnus, s'exaltait au récit des Livingstone et des Stanley. Et mon plus grand désir était de visiter les tribus d'anthropophages. J'appris à cette époque que le docteur Pionnier, le hardi conférencier, 3 fois lauréat de l'Académie des sciences, partait en mission dans l'Afrique centrale, dans un but à la fois géographique et humanitaire. On faisait appel à tous les jeunes gens de bonne volonté, possédant une bonne santé, un jarret solide et 3000 francs pour subvenir aux besoins de l'expédition. Le docteur Pionnier réunit ainsi 7 jeunes gens d'excellentes familles qui lui apportèrent 21 000 francs. Et comme c'était un galant homme, il s'en servit immédiatement pour régler des dettes de jeu. D'après les prospectus, une fois nos 3000 francs versés, notre voyage était payé en première classe de Marseille à Zanzibar. Mais le jour du départ, le docteur Pionnier eut une longue conférence avec le capitaine du steamer La Ville d'Aubervilliers, puis il vint nous expliquer qu'un voyage trop confortable vous préparerait mal aux fatigues de l'expédition. Nous coucherions donc avec les hommes d'équipage et nous rendrions de petits services sur le navire en qualité de chauffeur et d'aide cuisinier. Nous arrivâmes le 16 avril en vue de Zanzibar, ville célèbre ainsi nommée parce que tous les habitants passent leur temps à jouer des consommations. Le docteur Pionnier fit alors un nouvel appel de fonds et nous réunîmes en vidant nos poches 7 700 francs dont le chef de l'expédition se servit pour régler de nouvelles dettes de jeu contractées à bord du steamer. Le sultan de Zanzibar, très flatté de notre visite, nous invita à sa table et offrit au docteur Pionnier un bateau démontable qui devait nous servir à traverser les rivières. Puis il nous donna une escorte de 12 nègres, du tabac à briser et de riches présents dont 15 paires d'espadrilles. Avec les hommes que nous avions ramenés d'Europe, nous étions bien une vingtaine de blancs. Nous prîmes chacun un morceau de bateau démontable sous notre bras et nous acheminâmes gaiement vers Bagamoyo. La dysenterie, cependant, faisait des vides dans notre petite troupe. Et quand l'un de nous restait dans la route, on lui prenait son tabac et son morceau de bateau. Malheureusement, plusieurs morceaux de bateau s'égarèrent. Et quand nous voulûmes reconstituer notre frêle esquif, la moitié de la coque manquait. D'ailleurs, il ne devait pas déjà être complet quand le sultan nous l'avait donné. Le sultan de Zanzibar a sur toute la côte orientale la réputation d'un blagueur à froid. Nous arrivâmes, fort à propos, à Rantsumi, petit royaume situé entre le Bagamoyo et Mpumalanga, 8 degrés de latitude sud. Le roi d'Irantumi avait longtemps habité Paris et avait rapporté 12 lances d'allumeurs de réverbère dont il avait armé sa garde royale et une quantité énorme de ces paysages peints en gris qui servent aux photographes pour les fonds. Il avait bordé des allées entières et des places publiques. Comme tous les vendredis, l'administration du jardin d'acclimatation fait conduire les rois nègres dans une maison spéciale du quartier de la Bourse. Le roi d'Ilantoumi, qui n'était pas renseigné, avait cru visiter une cour européenne ou quelques somptueuses ambassades. Aussi toutes les dames de sa cour étaient-elles désormais habillées de peignoirs en satinette de couleur, ouvert sur le devant. Les habitants d'Ilantoumi n'étant pas anthropophages, nous fûmes obligés de nous avancer vers l'intérieur des terres pour pouvoir exercer notre œuvre de civilisation. Et nous arrivâmes au premier jour de juin à Kakoma, mais les habitants de Kakoma avaient été récemment convertis au végétarisme. À Kaouale, le roi du pays, à qui nous demandions s'il était friand de chair humaine, il répondit « Dis pas ça, transférante !» Ce qui voulait dire « Oh, je vous en prie, ne continuez pas sur ce ton-là, vous allez me donner des hauts de cœur. » Comme tous les vendredis, l'administration du jardin d'acclimatation fait conduire les rois nègres dans une maison spéciale du quartier de la Bourse. Le roi d'Ilantoumi, qui n'était pas renseigné, avait cru visiter une cour européenne ou quelque somptueuse ambassade. Aussi toutes les dames de sa cour étaient-elles désormais habillées de peignoirs en satinette de couleur ouvert sur le devant. Les habitants d'Iramoussi n'étaient pas des anthropophages, alors nous fûmes obligés de nous avancer vers l'intérieur des terres pour pouvoir exercer notre œuvre de civilisation. Et nous arrivâmes au premier jour de juin à Kakoma, mais les habitants de Kakoma avaient été récemment convertis au végétarisme. À Kaouele, le roi du pays, à qui nous demandions s'il était friand de chair humaine, nous répondit « Dis pas sans de félicité », ce qui voulait dire Moi, je vous en prie, ne continuez pas sur ce ton-là. Vous allez me donner des haut-le-cœur. Vous arrivez enfin dans cette grande étendue de terre qui se trouve dans les lacs Tanganyika et Victoria Nyanza. Des villages et endroits habités haut devinrent rares. Nous parcourûmes une cinquantaine de milles sans rencontrer un être vivant. Les provisions de la petite troupe s'épuisaient. L'eau, par bonheur, ne manquait pas. Mais aucune plante comestible ne croissait dans la prairie. Et le gibier faisait complètement défaut. Le 18 juillet au soir, nous n'avions rien mangé depuis 36 heures. Le docteur réunit tous les blancs. On mit solennellement dans un chapeau les noms des nègres. Le premier nom qui sortit était celui d'un vieux guide qui rendait de sérieux services à l'expédition. Alors, on recommença l'épreuve par égard pour son grand âge et sa probable coriacité. Enfin, le sort désigna un jeune nègre nommé Kounou. Il était vigoureux, de belle taille. Le docteur, excellent cuisinier, fut chargé de l'accommoder. Tout le monde, servi copieusement, redemanda. Oh, il nous fit trois repas. Cependant, le pays commençait à devenir plus giboyeux. Mais la chasse était si difficile, et c'était toujours imprudent de manger des bêtes qu'on ne connaît pas. Nous entamâmes un second nègre le 20 juillet au soir. Puis, à l'exception du vieux guide, toute l'escorte y passa. Puis, à l'exception du vieux guide, toute l'escorte y passa. Heureusement, nous arrivions dans des régions habitées et nous pouvions retrouver d'autres nègres. Nous faisions, je dois le dire, horreur aux populations avec de pareilles coutumes. À Kibanga, un vieux raseur, le chef noir, va nous faire une longue allocution où il nous sermonnait de la belle façon. Il nous disait qu'au 19e siècle, il était honteux qu'on se livrât encore à de semblables pratiques. Enfin, après quelques semaines de marche, nous arrivâmes à Moussoumouma, dans l'État indépendant du Congo. Jamais une expédition ne s'était accomplie dans des circonstances aussi favorables. Nous étions tous gras et bien portants. Nous avions sans doute trouvé la nourriture qui convenait pour supporter le dur climat de l'Afrique centrale. Et à notre retour en Europe, on nous combla de distinctions. Et le docteur Pionnier, dès sa première conférence, fit justice de cette opinion stupide qui prétend qu'on ne trouve plus d'anthropophages sur le continent africain.